Gardez les vôtres. Hein. Je vais demander à prêcher tous les dimanches. Alléluia. Merci Seigneur pour la joie d'être ensemble sous ton regard. C'est tellement agréable de sentir ton corps vivre sur cette terre, avec chacun de ses membres, de sentir la richesse spirituelle qui habite ton corps, là maintenant. Merci parce que ta parole vient nous rencontrer pour vivifier là encore davantage, irriguer, oxygéner ce souffle qui est en nous, cette vie qui est en nous. Alors Seigneur, nous te prions, parle à nos cœurs ce matin. Amen. 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 Le chemin par lequel nous sommes amenés parfois à choisir un texte ou un thème pour la prédication est souvent étrange. On est aux aguets comme ça quand on sait qu'on doit prêcher. Là, Jean-Louis sait qu'il doit prêcher dans 15 jours. Donc, il va être aux aguets de tout ce qui se passe dans les lieux spirituels, dans sa vie. Une attention pour pouvoir... sentir le souffle de l'esprit, un peu comme quand on est sur un bateau, comme aujourd'hui notre ami Rémi qui tire sur les bouts, sur les réglages de la voile et qui doit le faire en sentant avec ses coéquipiers le sens du vent et la manière dont le bateau doit pouvoir s'orienter. On est un petit peu comme cela lorsqu'on doit apporter la prédication. Moi, j'étais dans cette attente-là, et puis j'ai eu un entretien avec un frère très proche, qui habite loin, il est à plus de 1000 km, mais quand on s'appelle, on reste longtemps au téléphone. C'est un téléphone de une heure et quart, parfois, à échanger sur la manière de vivre dont nous vivons, là, notre relation à Dieu, dont nous vivons aussi notre service, puisqu'il est aussi responsable d'une assemblée et actuellement assez en souffrance, assez ballotté par la tempête, et on aime bien parler ensemble parce qu'on se fait du bien. Et puis, au cours de la discussion, on est venu à parler d'un texte et d'un personnage de la Bible, et quand j'ai eu raccroché, tout à coup, ce texte-là, dans notre échange, m'est apparu différemment. Et je me suis dit, je vais le partager avec vous ce matin. Alors, ça n'a pas été sans difficulté. C'est une des rares fois où je me suis dit, ah oui, mais est-ce qu'un tel va réagir de telle ou telle manière, ou une telle, parce que c'est quand même un texte assez ciblé, avec une manière de le voir souvent assez réduite, mais c'est une des rares fois où je me suis dit, ah, est-ce que je dois faire attention à un tel, et peut-être le laisser, et la pensée m'est venue, je dois vous le dire, de garder ce texte-là sous le boisseau en me disant « je le prendrai plus tard ». Mais on sait bien que plus tard, quand on fait cela, c'est jamais le bon moment. Alors, je vais lire avec vous un texte qui est l'introduction du premier livre de Samuel. Le premier chapitre du livre de Samuel. Et puis, c'est hier soir très tard, je me suis dit « mais si je devais donner... » un nom à cette prédication, parce que Patricia va venir me voir à la fin, puis elle va me dire, alors tu mets quoi comme titre, ou c'est Juliette? Et puis là, je me dis, ah, quoi, je ne sais plus. S'il y avait peut-être un titre à mettre, ce serait faire face au manque, aux besoins et aux désirs. Ah, c'est que là, du coup, quand je donne le titre, c'est vrai. Je vois, malgré les masses, je vois des regards qui se disent « oui ». Mais en même temps, je crois que ça nous concerne tous. C'est un récit qui pourrait être lu d'une manière très resserrée, et certains pourraient se dire, notamment les hommes, « ça ne nous concerne pas ». Eh bien oui, si, ça nous concerne, parce que nous sommes tous et toutes concernés par la question des manques ou du manque, des besoins que nous avons et des désirs qui naissent. Alors, j'aimerais lire ce début du livre de Samuel qui commence ainsi. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yehoram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple d'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait les prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. C'est un texte qui tient une place particulière dans l'histoire d'Israël, puisque Samuel, qui naît, sera le dernier juge d'Israël et clôturera ce temps particulier où il n'y a pas de roi. Dans la Bible juive, le livre de Samuel fait suite logique au livre des juges. J'aime bien toujours regarder ce qui est avant. Notre ordre dans notre Bible est un peu différent puisque le livre de Samuel fait suite au livre de Ruth. Et donc on est avec cette suite, si vous tournez les pages et que vous remontez avant Ruth, donc vous avez la Bible juive qui se termine par ces mots. « En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Cette fin du livre des juges n'est pas une fin positive. C'est-à-dire que dans ce pays où Dieu veut régner, enseigner un peuple, en faire son peuple qui soit capable de devenir un témoin. En fait, l'absence de roi, de pouvoir terrestre, fait que chacun décide ce qui est bon pour lui. Et il en est toujours de même dans le peuple de Dieu. Quand nous souhaitons ou nous nous soumettons à une autre autorité, quand chacun fait ce qui lui semble bon, alors nous nous retirons de la bénédiction de Dieu. C'est vrai pour le peuple de Dieu, c'est vrai pour les hommes et les femmes qui font partie de ce peuple de Dieu. Le livre qui précède 1 Samuel dans notre Bible à nous, protestante et aussi catholique, c'est le livre de Ruth, qui se passe aussi au temps des juges. Donc il n'y a pas d'incohérence non plus à ce que l'ordre se soit établi aussi comme ça dans l'ordre protestant ou chrétien de la Bible. C'est le livre de Ruth. Et vous savez que le livre de Ruth commence par ces quelques mots. Au commencement du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses fils. Le nom de cet homme était Élimélec et ils étaient Éphratiens. Relisez Juges, Ruth et le début du livre de Samuel, parce qu'en fait, il y a un lien extrêmement fort dans ces récits pour parler de la relation des hommes avec Dieu. Quand Ruth commence, le livre de Ruth commence par ces mots, on est avec cette formulation au temps du gouvernement. Il y eut une famine, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses fils. Lorsque nous lisons le début du livre de Samuel, il dit, il y avait un homme de Ramath Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanah, qui était Éphratien. Il avait deux femmes, donc l'un a deux fils, l'autre a deux femmes, et les deux font un voyage pour deux raisons différentes. Élimélec quitte Bethléem pour s'enfuir en Moab. Elkana quitte l'endroit où il habite pour aller à Silo. Deux voyages différents, mais qui symbolisent aussi les voyages que nous faisons dans nos vies. Le premier fuit la difficulté et va à l'étranger. Il y a tellement de fois où nous avons fui le chemin, la route, la place que Dieu nous donne d'occuper ou nous appelle à occuper. Parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. Et certes, ça peut l'être. Nous ne pouvons pas accuser Élimélec de choisir uniquement la facilité. Il est face à la famine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les deux sont Éphratiens. Élimélec et Elkana. Ils sont tous à l'endroit, et pas n'importe quel endroit. Un Éphratien ou un Éphraïmite, c'est en fait quelqu'un qui habite. Oui, mais plus précisément, Bethléem. C'est le nom qu'on donne à ceux qui habitent Bethléem. Les deux fuient Bethléem. C'est étrange quand même. Quand vous voyez que la fin du livre des juges, c'est chacun faisait ce qui lui plaît. On peut dire que Élimélec, dans Ruth, fait ce qui lui plaît, c'est-à-dire qu'il fait le choix de quitter là où il doit aller, c'est-à-dire Bethléem, la maison du pain. Je trouve toujours que le début de Ruth est très particulier. Un homme qui fuit la maison du pain pour assouvir ses besoins en allant là où il semble que c'est plus facile. Et puis le texte dira plus tard, quand les hommes sont morts, que Noémie rentre parce qu'elle a appris que l'Éternel avait été bon avec Israël. Bien sûr, il peut y avoir des temps difficiles et nous ne pouvons pas nier que dans nos vies aussi, il y ait parfois des temps difficiles. Que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de relations familiales, que ce soit au niveau du travail, on ne peut pas nier qu'il y ait des moments difficiles. Mais où est notre place ? Où est notre appel ? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire ? Alors, parfois, il faut quitter. Il faut s'en aller. Parce que c'est là notre place aussi. Il ne s'agit pas de rester à un endroit géographique, dans une situation, mais quel est l'appel et la volonté de Dieu pour ma vie ? Parfois, il faut se lever, comme le fait Elkana, et aller à Silo, dans la maison de Dieu. L'histoire de Ruth se termine par la naissance de David. Ce n'est pas pour rien. Toute l'histoire de Ruth mène à Christ. Toute l'histoire de notre vie devrait mener toujours à Christ. Quelle est sa place ? Quelle est sa parole dans nos vies ? Le livre des Justes se termine par le constat qu'il n'y a pas d'autorité, ni humaine ni terrestre. Il n'y a pas de roi. Mais qu'il n'y a pas non plus d'autorité divine et céleste. L'homme se livre à lui-même. Est-ce que c'est aussi parfois notre situation ? Quelle est l'autorité qui est dans ma vie ? Israël, au temps des juges, est un pays qui est vide de Dieu. Dans ce texte que nous avons lu, il y avait un homme de Ramathaim Tsophim qui se trouvait donc dans le territoire d'Éphraïm et de Bethléem, qui s'appelle Elkana. Elkana, ça veut dire Dieu s'est approprié, s'est acquis. Éphraïm, ils sont originaires d'Éphraïm, toute la famille. Et ça veut dire doublement fécond. On peut imaginer la situation de cette femme, Anne, qui se retrouve dans cette situation d'une famille où elle est stérile. Alors qu'elle habite un territoire doublement fécond, Éphraïm. Et Elkana, Dieu se l'est approprié. Ses ancêtres, c'est Jéroham, ça veut dire qu'il trouve la miséricorde. Quel ancêtre ! Porter un nom qui dit, voilà, je porte, j'ai trouvé la miséricorde de Dieu. Eliou, un autre ancêtre d'Elkana, c'est « Il est mon Dieu », une proclamation. « Il est vraiment mon Dieu ». Tohu, ça veut dire « humble ». Et Tsouf, celui dont il est dit « il est Éphratien », l'ancêtre Éphratien, ça veut dire « rayon de miel ». Oh, quelle généalogie ! Que du bon ! Que du bon ! Et Anne est stérile. En quelque sorte, on pourrait dire que ce texte parle pas de la stérilité, mais du vide et de l'absence. C'est plutôt cela. Et je nous invite à lire ce texte-là dans ce sens-là, afin que, messieurs, vous vous sentiez concernés. Parce que si on parle de stérilité, d'absence d'enfants, les hommes se sentent moins concernés, même si parfois ça vient d'eux. Mais, en quelque sorte, c'est moins lourd à porter que l'absence de porter un enfant pour une femme. Alors, ce n'est pas tellement l'absence d'enfant, la stérilité, que le vide qu'il peut y avoir dans nos vies. Comment faisons-nous face à ce vide ? Quelle est la place que Dieu occupe face aux vides qui peuvent être dans nos existences ? Il y avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Je ne sais pas si vous avez porté une attention à la manière dont ce verset est construit. Il y avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Puis la suite, c'est Pénina avait des enfants et l'autre n'en avait pas. Comme si l'ordre s'inversait simplement parce que l'une a enfanté et l'autre pas. On pourrait presque dire que dans la première partie, Anne et Pénina, leur nom c'est Gracieuse et Corail. C'est joli. On peut même supposer, et c'est ce que font beaucoup de sages en Israël qui interprètent l'Écriture, de dire que dans cette première partie de verset, Anne est la première épouse. L'épouse de l'amour. Et Pénina, la seconde épouse. Et puis le second verset inverse entre Pénina et Anne, comme si la première partie c'était l'ordre de la préférence et de l'amour, et la seconde partie l'ordre de la procréation et de la chair. Alors, on pourrait se poser la question aussi, quels sont les ordres qui s'imposent dans notre vie, dans nos priorités, dans nos attentes qui peuvent résulter de considérations sociales? On peut imaginer que Anne n'ayant pas d'enfant, la culture juive et surtout de toute cette partie du monde était dans le sens où une femme devait enfanter. Elle devait. Sinon, elle occupait une place qui n'était pas utile dans la société environnante. Est-ce que c'est cela qui dicte nos choix, nos considérations aujourd'hui, c'est-à-dire la culture, l'esprit de ce monde, la considération de ce monde? Quand j'ai travaillé avec les SDF il y a près de 25 ans, il y a un SDF qui est devenu un véritable ami. Il est vraiment devenu un ami, puis un autre aussi, mais il y en a un, c'était vraiment le SDF de Lorient. Michel l'a connu quand il était SDF, il l'appelait Brassens, parce qu'en général, il consommait un peu d'alcool. Et puis, quand il consommait un peu d'alcool, dans les bus et les transports en commun, il chantait tout Brassens. Les gens en avaient pour leur argent s'ils devaient donner une pièce. Et c'est vraiment devenu une personne à laquelle je me suis attaché parce que j'ai découvert un homme qui était rempli de qualité, de douceur, et qui avait souffert, certes, qui en est arrivé là où il était. Puis on a fait un chemin ensemble, il a trouvé un appartement, et puis on a pu travailler ensemble. Mais c'est vraiment une personne à laquelle je me suis attaché. Alors c'est vrai, quand je disais que j'avais un ami qui était un ex-SDF, certaines personnes m'ont regardé en me disant « Ah bon ?» Bon, c'est pas très intéressant. Si, tout homme et toute femme sont intéressants. Quelles sont les considérations qui dictent nos regards et notre conception de notre vie et de notre rapport à nous-mêmes et de notre rapport aux autres? Est-ce que c'est, si tu es une femme et que tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu comptes? Est-ce que tu as de la valeur? Est-ce que ceci? Mais est-ce que s'il te manque des choses que tu considères comme essentielles et que tu ne les as pas, à ce moment-là, ça veut dire que tu n'as pas, de valeur. Hein? Celui qui n'a pas une Rolex à son poignet à 50 ans, c'est qu'il a raté sa vie. C'était ce que disait un grand publicitaire. Mais, sourions, mais est-ce que ce n'est pas parfois le regard que nous posons sur nos manques et les besoins qui arrivent derrière? Considérer que si je n'ai pas, si je ne fais pas, alors c'est que j'ai raté quelque chose. Et à ce moment-là, c'est plus l'Esprit de Dieu qui pose son regard sur nous et qui nous donne de nous regarder différemment, comme Dieu nous regarde. Comme Dieu nous regarde. Mais c'est le monde auquel nous acceptons le regard, duquel nous acceptons ce regard sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Anne était en difficulté. Alors, est-ce qu'elle était, comme on le pense souvent, la première épouse et du fait de sa stérilité, ne pouvait pas, n'a pas occupé la place principale dans la famille, et que Elkana, par la suite, a pris une femme, comme l'a fait Sarah? On est dans le même schéma. Prends donc ma servante, Agar, et puis donne-lui un enfant. On est dans la même configuration. Et donc, Elkana aurait pris à ce moment-là une deuxième épouse qui, elle, a enfanté. Ces deux premiers versets dans ce chapitre nous semblent poser le cadre du récit qui suit. Il y a les enjeux dans cette famille, il y a les positions des acteurs, le rôle de chacun, les liens relationnels, et puis ce que j'appelle moi l'organisation et le système qui viennent de la société juive, qui viennent de ce monde, qui viennent des relations hommes-femmes aussi à ce moment-là, mais qui existent aussi encore aujourd'hui. Tout est posé. Il est dit que chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Là aussi, ce sont deux acteurs qui ne sont pas innocents, puisque les deux fils d'Élie occupent des places de sacrificateurs dans le temple. Il faut relativiser, hein, parce que souvent on imagine Élie assis à la devant le temple, mais il n'y a pas de temple. Le temple n'existe pas encore. On est avant David, on est avant Salomon qui construira le temple. Donc on est à Silo. Il y a au moins l'arche de l'Alliance qui est là avec le tabernacle. Peut-être, et c'est ce que l'on pense, ont-ils construit un bâtiment en dur pour abriter l'arche qui ensuite sera prise par les Philistins. Mais on n'est pas dans un temple. On est dans un lieu qui a été consacré pour recevoir l'arche. Mais ce qui se passe en termes de système, c'est que les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sont des hommes mauvais, qui utilisent leur fonction sacerdotale pour se servir et s'enrichir. Quand les sacrifices sont faits, comme celui que va offrir Elkana, c'était un sacrifice d'action de grâce. C'est un des rares sacrifices où les familles, ceux qui donnent le sacrifice, peuvent manger une partie du sacrifice. Il y en a une qui est consacrée à Dieu. En général, c'est la graisse, tout ce qui est considéré comme noble, le foie, etc. Et puis, le restant sert à nourrir et la famille comme une action de grâce. Nous sommes bénis par Dieu. Nous sommes tellement dans la joie que Dieu nous bénisse. Et puis, une part revient au sacrificateur. Sauf que Ophni et Phinéas, est-il dit plus tard, sont deux sacrificateurs qui, quand le sacrifice est mis en place, disent aux familles, écartez-vous, on va se servir d'abord. Et puis là, ils prennent le gigot, et puis ils laissent les bas morceaux aux familles. Élie est le père de ces deux sacrificateurs. Ce n'est pas pour rien que leurs noms sont dans ce texte-là. Imaginez le contexte. Et en revenant au récit d'Elkana, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Arrêtons-nous un petit peu sur la figure d'Elkana. On le voit comme un homme plein de bonté, d'amour pour Anne, d'attention pour elle. On s'aperçoit, si on regarde le texte, qu'il en est loin. On se dit, bon, il a un joli nom, Dieu se l'est approprié. Mais quand on regarde son comportement, on est attiré par quelques détails. Là, ici, au verset 4, il dit « quand il offrait son sacrifice ». Donc, sacrifice d'action de grâce pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour lui, pour sa famille. Il a deux femmes. C'est autorisé, même si c'est à la limite, ce n'est pas les choses les plus courantes, mais c'est autorisé quand quand une femme ne peut pas avoir d'enfant. Eh bien, voilà, il y a cette liberté qu'on retrouve, comme je le disais, pour Abraham. Et puis, quand il fait son sacrifice, il donne des portions à Pénina, et à ses fils et à ses filles. Je dis, c'est un homme apparemment très attentionné pour sa femme, sa seconde femme, et pour ses autres enfants. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Et sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. On s'aperçoit que dans ces structures familiales, en fait, il y a une situation qu'on retrouve aussi chez Sarah et Agar, c'est de l'opposition et de la réaction. Celle qui a un enfant le fait ressentir à celle qui n'en a pas, afin d'occuper une place prépondérante dans la famille. On est dans des relations humaines tout à fait normales. Chercher à abaisser, blesser, celle qui est dans la souffrance. On retrouve ce même phénomène dans la réaction de Noé avec Cham. Qu'est-ce que fait Cham? Voyant son père en difficulté alcoolisé, il décide d'aller rapporter cela à l'extérieur pour dégrader l'image, l'autorité du père auprès de toute sa famille. Quand on est face à la souffrance, essayer d'en profiter pour prendre la première place, pour être au-dessus. Là, Pénina, tous les ans, elle joue le même jeu. Tous les ans, à chaque fois qu'on vient... Alors, on suppose que si elle fait, quand ils vont à Silo, elle le faisait au quotidien. D'où le mal-être et la souffrance de Anne. Mais Elkana, là-dedans, on a l'impression qu'il est plein de gentillesse, bienveillant, pas du tout. En fait... Au verset 5, il donnait à Anne une portion double. En fait, dans ce verset, il n'est pas dit une portion double, mais une part des deux narines. Allez chercher sens de ça. Alors là, on va chercher une part des, déjà deux narines pour choisir de la viande et donner une part plus importante. On se dit, quel est le sens de tout ça? En fait, la part de deux narines, c'est parce que le mot narine en hébreu se dit af. Af. Et c'est le même mot que fureur et colère. Et en fait, quand c'est une expression imagée, hein, comme nous on peut en avoir pour exprimer des choses, on utilise quelque chose d'assez, d'assez imagé, bien là, la part des narines, c'est une part de colère. C'est une portion qui est décidée sous l'effet de la colère. On est bon, d'accord. C'est le même mot, af, colère et narine. Donc, c'est une expression hébraïque qui dit c'est une part basée sur la colère. Mais la colère de quoi? Eh bien, on trouve le sens sur la manière dont le texte nous est proposé. Verset 4, Elkana donne des parts à Pénina et à ses enfants. Ensuite, il donne une part de la colère à Anne. Et ce que nous dit l'Écriture, c'est que le verset 6, sans transition aucune, c'est pour ça qu'on comprend ce texte mieux de cette manière-là, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour l'apporter à Sirité. Ça veut dire que quelque part, Elkana est en colère du fait que la femme qu'il aime, Anne, soit mortifiée, rabaissée du fait de sa stérilité par Pénina. Il donne donc une part de colère, de cette colère qu'il a contre Pénina, pour souligner l'importance que Anne a pour lui aux yeux, une manière de compenser la mortification que pose Pénina, et en même temps de lui dire, ben voilà, c'est la femme que j'aime. C'est compliqué, les mecs. Ah là 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 là, mesdames, vous êtes d'accord avec moi? C'est compliqué, hein? Allez décoder le... Il y a des visages avec des masques. Je sens que derrière, il y a un sourire et une banane. Ah oh oui, je suis d'accord avec lui. Au moins, ce matin, le pasteur, il a dit quelque chose de bien. Je vais t'expliquer, chérie. Ouais, quel comportement d'Elkana. C'est typique d'un homme qui fuit ses responsabilités et qui ne dit pas les choses. Au lieu de prendre Pénina et de dire, voilà, je ne t'autorise pas à rabaisser, à blesser Anne parce que j'ai pour elle un amour profond. Et ce n'est pas parce que, comme il est dit, que l'Éternel l'a rendue stérile qu'elle doit pour autant, à cause de ce qu'elle est, être blessée, meurtrie. Je ne peux pas l'autoriser. Il ne fait pas ça. Il donne une part de colère, une part des narines. Hein, c'est-à-dire, je te montre, Pénina, regarde ce que je lui donne. Mais il ne dit rien. Donc on est dans un système qui reste fermé, bloqué, avec un homme qui ne dit pas, qui ne prend pas la défense, qui ne guérit pas les blessures de sa famille. Vous en connaissez peut-être, des hommes qui fuient cette responsabilité. David a été comme ça. Rappelez-vous la violence de son fils qui a violé une de ses sœurs. Et David, rien. Il ne dit rien. Il couvre la violence et le péché. Elkana est dans cette même position. Il couvre la violence et le péché de Pénina. Hein, il croit faire quelque chose qui a du sens et qui peut guérir. Autre chose, lorsque il voit la détresse de Anne, il lui dit, mais Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Je t'ai donné deux portions, regarde. Moi, ça m'arrive de faire, ça m'arrive souvent de faire à manger, et puis je retrouve la moitié de ce que j'ai préparé à ma femme dans le frigo. Je dis, bah, pourquoi elle n'a pas mangé? C'était bon quand même. Mais à qui je m'intéresse en ayant cette réaction-là? À ce que j'ai fait, au temps que j'ai pris, etc. Je ne m'intéresse pas à ce que, pourquoi est-ce qu'elle en a mangé moins, est-ce qu'elle n'est pas bien, j'ouvre le frigo, oh, elle n'a pas mangé, elle n'a pas tout mangé. Alors, ça sert à quoi que je me décarcasse? Hein? Et vous avez Elkana qui dit à Anne, pourquoi pleures-tu, ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Oh les mecs, il n'a rien compris. Il n'est pas attentionné. Et alors la phrase qui suit, c'est, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? C'est-à-dire qu'il est face à quelqu'un qui a un manque et des besoins, et il dit, mais regarde-moi! Regarde, je suis beau, est-ce que je ne peux pas remplacer tous les manques et les besoins que tu as? Combien dans notre entourage nous disent quand nous sommes mal, en souffrance, mais regarde ce que tu as, regarde ceci, regarde cela. Mais regarde ma souffrance et mon mal-être. Tu ne le vois pas. Je vais dire plus. Tu ne me vois pas. Quelle différence avec le regard de Dieu, qui dans notre vie n'est pas là en s'imposant comme quelqu'un qui dirait « Regarde, je suis là, je suis ton tout suffisant !» Mais il vient dans l'humilité, dans l'abaissement, dans la personne de Christ pour dire « Voilà, je veux te rencontrer tel que tu es. Ce qui m'intéresse, c'est qui tu es, tes besoins à toi. » Et c'est ça qui révolutionne notre vie quand nous rencontrons Christ. C'est que nous avons en face de nous un Dieu qui s'intéresse à moi. Qui s'intéresse à moi. Qui veut répondre à mes vrais besoins. À mes manques réels. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Dieu ici, dans ce texte, nous parle vraiment de nos besoins, de nos manques, de nos besoins. Et puis aussi de nos désirs, des vides qui peuvent être présents dans notre existence. Est-ce que certains d'entre vous ont des vides? Est-ce que certains d'entre vous ont des manques? Si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes rassasiés. Vivement la mort pour être avec le Seigneur. Si tout est reçu et vivant, et s'il n'y a plus de manque, vous savez, si on met un plat qui pour nous restera, bon, peu signifiant, une purée de pommes de terre. Oh, une purée de pommes de terre. Il faut que ce soit alors, nec plus ultra, avec des petites truffes dedans. Ça doit être bon. Hein. Mais si on fait une purée de pommes de terre, mais si on la donne à quelqu'un qui a faim, et il y en a dans notre société, il ne faut pas aller en Afrique, hein, des hommes et des femmes qui ont faim, il y en a ici. Tout à coup, la purée de pommes de terre, ça devient un plat extraordinaire. Si dans notre vie, nous n'avons plus de manque et que tout est satisfait, alors nous sommes des hommes et des femmes qui n'avons plus faim. Or, il y a à prendre conscience de ce qui manque dans notre vie et qui est à advenir. C'est ce que Dieu nous propose dans notre vie. Dans Ruth, un des derniers versets de Ruth au chapitre 4 et verset 15, vous avez quelque chose qui est analogue à la parole d'Elkana. Vous savez, Elkana, il dit, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que... Alors, combien il dit? C'est 15 fils, hein? Combien? 10. C'est déjà pas mal, 10. Hein? Vous savez, juste la page d'avant dans votre Bible, vous êtes dans le livre de Ruth, et il y a les femmes qui entourent Ruth qui vient d'accoucher, et Noémie, donc, qui a perdu son mari et ses 2 fils, au pays de Moab. Et que disent les femmes? Ah, oh, il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. C'est juste la page d'à côté. Et tiens, étrange, non? Moi, je trouve qu'il n'y a jamais de hasard dans l'écriture. La page d'après, Elkana dit, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Là, les femmes entourant Noémie disent, est-ce que ta belle-fille ne vaut pas plus que 7 fils? 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire que dans cet espace-là, il y a une comparaison où la valeur de Ruth pour Noémie et la valeur de Elkana pour Anne, il y en a une, c'est est-ce qu'elle ne vaut pas pour toi? Est-ce qu'elle n'a pas cette valeur-là pour toi, Ruth? Alors que Elkana dit, moi, mon ego, ego, est-ce que moi, je ne vaux pas 10 fils? Et le regard est différent. Hein. Quand on est sur, qu'est-ce que je vaux? Hein? Ou qu'est-ce que l'autre vaut pour moi, m'apporte? Et Ruth, quand les femmes posent cette question-là, est-ce qu'elle ne vaut pas plus que 7 fils? Juste quelques versets plus loin, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Et le livre de Ruth se termine avant le livre de Samuel sur cette prophétie de la venue de Christ. Parce que David, ce dernier nom, si vous reprenez l'évangile de Matthieu, c'est un tel engendra David jusqu'à Christ. Le livre de Ruth, c'est une proclamation que Ruth, pour Noémie, annonce le Rédempteur. Tout le livre de Ruth parle de cela, de la rédemption. Est-ce que Christ ne vaut pas pour nous tout ce que le monde peut nous offrir? Quels sont nos manques et est-ce qu'en Christ nos manques peuvent trouver une réponse? Manque, besoin et désir. Je cite souvent la pyramide de Maslow, ce psychothérapeute qui a déterminé et travaillé sur tous les besoins qui sont les nôtres. Et les besoins naissent des manques, pas l'inverse. Il me manque quelque chose, j'estime que c'est un besoin, et j'ai donc le désir de satisfaire ce besoin. C'est le chaînage normal. Le tout, semble-t-il, est d'être d'abord à identifier nos manques. Quels sont nos manques, quels sont ceux qui sont légitimes et quels ceux qui sont superficiels? Quels sont les manques dans ma vie? Et si vous vous écoutez, si vous placez devant le Seigneur et vous laissez le Saint-Esprit là aussi, vous inspirer quant à l'analyse des manques que l'on peut éprouver, alors le Saint-Esprit peut nous dire, ça c'est important ce manque dans ta vie. Il est légitime. On ne dira jamais qu'il n'y a pas de manque qui soit... Tous les manques dans nos vies seraient illégitimes parce que Christ nous suffirait. Oui, mais il nous apporte aussi des réponses par rapport au manque profond. Manque peut-être en matière de santé, manque en matière de sécurité, manque en matière de qualité de vie. Ce sont des vrais manques. Quels sont les manques qui sont dans ma vie? C'est important aussi d'en parler et dire, Seigneur, montre-moi aussi ce qui relève des manques superficiels ou des manques qui sont légitimes pour que je fasse la part des deux et que je sache ce qui est bon pour moi et donc quels sont les besoins par rapport à ces manques. Identifier les manques fondamentaux qui ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Je sais que l'activité sportive n'est pas un manque profond installé dans la vie de Michel, par exemple. Par contre, les manques qu'il pourrait y avoir s'il n'avait pas à manger tous les jours, là, je suis certain que c'est un manque qu'il considérerait comme fondamental. Mais il y a d'autres manques. Quels sont ces manques dans votre vie, dans ma vie, auxquels Dieu veut répondre? C'est-à-dire qu'il relève d'un vrai besoin. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces manques fondamentaux dans nos vies, analyser les besoins. Parce que face à un manque, il peut y avoir différentes choses qui peuvent y répondre. Moi, je préparais la prédication et j'étais sur cette pensée-là. Juste à côté de moi, il y a mon placard qui est à hauteur de mes yeux, qui était entrouvert. Et je me suis dit, tiens, j'ai quand même la chance d'avoir une femme, une épouse, qui ne pose aucun jugement sur les manques que je peux éprouver. C'est-à-dire qu'elle va être attentive, et je regardais ma porte qui était entrouverte, et dedans, j'ai une superbe caméra Parce que j'avais, à un moment donné, je trouvais que ça me manquait. Avoir une caméra pour faire des films, pour filmer des interventions, des paysages, la famille, etc. Et je regardais cette caméra et je disais, mais ça, c'est un manque que j'éprouvais comme important. Et j'en ai parlé à ma femme qui m'a dit, bah, pourquoi pas, hein. Et puis, elle m'a laissé acheter une caméra. Et puis, un an et demi, deux ans après, les téléphones faisaient caméra. Et je me suis dit, bah finalement, ce manque-là, il n'était pas fondamental. Cette caméra, je crois que je dois l'avoir depuis une douzaine d'années à peu près, au moins. Et elle reste dans le placard. Et je pense que je ne vais pas arriver à la vendre, parce que, sauf si quelqu'un parmi vous est intéressé par une caméra de très grande qualité, presque neuve. Quels sont les manques que nous avons? Et quels sont les besoins réels qui s'y rattachent? Humainement et spirituellement. Parfois, nous ne recherchons pas ou ne regardons pas quels sont les manques réels au niveau spirituel qui sont là présents dans notre vie. Au niveau du baptême du Saint-Esprit, au niveau des dons spirituels, est-ce qu'il n'y a pas un manque parfois dans les églises d'hommes et de femmes qui ne s'interrogent pas et qui laissent les choses en l'état parce que juste, ouais, un manque, bon, pas pour moi. Est-ce que c'est un manque de ne pas aller à l'église le dimanche ou se retrouver avec les frères et sœurs pour se nourrir de la parole, etc.? Non, pas pour moi. Et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas derrière des manques sur lesquels je ne m'arrête pas, des besoins réels? Est-ce que se nourrir de la parole de Dieu, d'être en communion fraternelle, on l'a vu avec le confinement, combien tout à coup l'importance de la communion fraternelle, de pouvoir se retrouver, ça avait du sens dans l'Église. Est-ce que nous sommes avec des manques qui ne nous sautent pas aux yeux? Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, dit la Maxime. Il y a parfois des manques dans l'Église sur lesquels nous ne nous interrogeons pas. Et puis, quelqu'un disait, l'important c'est d'identifier les besoins fondamentaux, les manques fondamentaux, ensuite d'analyser les besoins qui doivent y répondre. Et puis, cette même personne utilisait un terme que j'ai. Je me dis, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Ensuite, il faut autopsier ses désirs. J'aime beaucoup. J'ai trouvé assez frappant la notion d'autopsier ses désirs. C'est-à-dire de les mettre à plat sur une table et puis les déconnecter de toutes les passions, etc., les envies, mais de les autopsier. C'est-à-dire, bon, attends, ça c'est mon désir, mais est-ce que ce désir-là, il est quelque part légitime de cette manière-là? On a parfois des désirs qui ne sont pas des désirs très purs, même si ça semble répondre à un besoin qui se justifie. Autopsier ses désirs. De quelle manière je vais couvrir les besoins? Quand on regarde l'attitude d'Elkana, on s'aperçoit que son désir, c'est de maintenir sa famille en cohésion. C'est ça. Mais la manière dont il fait vivre ce désir, c'est une manière qui n'est pas juste, ni pour Pénina, qui est obligée d'adopter une position parce qu'elle se sent moins aimée, ni pour Anne, pour laquelle il est en train de lui dire, bah, écoute, t'as pas d'enfant, bien sûr, mais hey, je suis là. C'est une stratégie qu'il adopte. Mais ses désirs ne sont pas purs, ni sains. Les besoins que nous avons, et qui répondent au manque, sont semblables à des enfantements. Je disais au début de ce partage, ce texte ne parle pas que d'enfantement physique, mais de tout ce que nous sommes appelés à enfanter. Et en ce sens, les hommes sont aussi concernés que les femmes. Qu'est-ce que Dieu veut enfanter à partir de ta vie? Qu'est-ce qui doit naître de toi du fait de cette rédemption qui t'a été accordée, de la vie qui a été déversée en toi et de ce que Dieu veut faire à la fois des dons naturels et spirituels qu'il dépose en toi. Qu'est-ce qui doit être enfanté ? Et j'ai envie de dire que cet enfantement qui nous concerne parle de tout ce qui est en nous et qui peut rester enfoui. Au plus profond de nous, au plus profond du jardin, comme les talents enterrés. L'Église et l'histoire de l'Église est pleine d'hommes et de femmes qui ont été remplis de la vie de Christ, qui avaient des dons et qui ont des dons naturels et des dons spirituels. Et pour certains, gloire à Dieu, il y a un enfantement de ces choses. Celui qui les reçoit dit, cela je le dois à Dieu. Vous savez, quand il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est quand Anne va revoir Élie et qu'elle lui dit ceci. Voilà, après que, elle dit à son mari, après qu'il soit sevré, que l'enfant soit sevré, je l'amènerai à la maison de l'Éternel, etc. En passant, elle a reçu, je dirais, cette assurance. Il est dit qu'à un moment donné, son visage ne fut plus le même, au verset 18 du chapitre 1, dès lors que le sacrificateur Élie lui a dit « Va en paix et que le Seigneur t'accorde ce que tu demandes ». Son visage, c'est pas quand elle a été enceinte, hein. On est d'accord. Ouais. Je vois des visages qui font oui, puis en même temps, je dis, est-ce que quand on fait oui de la tête, on est aussi dans cette foi-là ? C'est-à-dire, j'attends pas que les choses s'accomplissent pour ne plus avoir le même visage. C'est-à-dire, le même visage, c'est-à-dire les mêmes émotions, les mêmes ressentis. C'est-à-dire que son visage n'est plus le même alors qu'elle quitte Élie et que pour l'instant, rien ne s'est passé. Est-ce qu'on peut être dans cette position de foi ? C'est la position de Anne. Et c'est ce petit dessin d'Odersée où vous avez l'homme qui vient à la croix devant Jésus-Christ avec son lourd fardeau, et qui pose son fardeau et qui dit « Seigneur, délivre-moi de mon fardeau » et puis une fois qu'il dit « Amen », il reprend son fardeau et il repart. Est-ce que parfois nous pouvons être de cette manière-là ? Anne ne l'est pas. C'est une femme qui dit « Bon, voilà, rien n'est arrivé, rien n'est accompli, mais mon visage n'est plus le même maintenant, je suis dans une attitude de paix. » Et une fois qu'elle fait ça, elle dit « Un an après, il y a Elkana qui retourne à Silo avec Pénina, les enfants d'année, et elle dit « Ah ben non, moi non, j'y vais pas. J'y vais pas. J'irai quand l'enfant sera sevré. » Donc, il y a l'enfant qui est né, très jeune, et qui reste avec sa mère. Et c'est l'année d'après qu'elle retourne à Silo, donc l'enfant a au moins deux ans et demi, et que là, elle va apporter cet enfant-là et le remettre à Élie. Deux ans et demi, trois ans, c'est, en hébreu, c'est nahar. C'est-à-dire, c'est un enfant, un petit enfant. Ce n'est pas un ado, ce n'est pas un jeune, non, un petit enfant. Elle le remet. Et elle dit, elle utilise un mot, quand elle amène l'enfant, elle dit, voilà, aussi, moi, dit-elle à Élie, je veux le prêter à l'Éternel. C'est une formule assez, je vais vous imaginer. Tiens, je te le prête, c'est mon fils. C'est une formule assez étrange. On serait attendu dans ce passage un mot qui va dire « Tiens, je te le donne !» Eh bien non. Parce qu'en fait, le mot qui est utilisé ici, c'est une réponse à une demande pressante. Donc, elle prête parce qu'elle perçoit une demande pressante de Dieu pour le peuple, pour le culte, pour le domaine spirituel. Elle le prête parce qu'il y a une demande pressante. Elle ne le donne pas, mais elle le prête, elle fait suite à une demande pressante. Est-ce qu'il n'y a pas ? Est-ce que vous entendez la demande pressante qui est celle de Dieu vous concernant et me concernant ? Est-ce que vous entendez cette demande de Dieu qui dit « Qui se lèvera ? Qui marchera pour moi ?» Est-ce que vous l'entendez ? Il y a une demande pressante de Dieu vis-à-vis de tous ses enfants afin qu'ils rentrent à son service. Est-ce que vous entendez cette demande pressante ? Ou bien est-ce que c'est... Ouais, je sais bien. Ouais. Il y a Michel, hein, de toute façon. Il est là. Il assurera. Ou il y a un tel, ou il y a une telle, etc. Non. Anne dit, je te le prête parce que j'ai entendu la demande pressante. Cette demande, c'est le nom de Samuel. C'est aussi le nom de Saül. C'est le même mot qui sert de, pour parler de demande pressante. Anne, elle a entendu cette demande pressante. Alors elle décide de prêter son enfant. Est-ce que vous voulez prêter vos vies?
Hein?
À Dieu. Il y a du respect dans la, dans la volonté de Dieu de nous, de se saisir de nos vies. Il ne va pas être comme un propriétaire qui dit, bon, maintenant, moi, je suis propriétaire. Je vais faire les travaux que j'ai décidés. Toi, tu n'as rien à dire, tu n'es que locataire. Non, non, Dieu a du respect. Et dans cette notion, j'aime beaucoup cette notion, je viens pour le prêter à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à prêter vos vies à Dieu parce qu'il y a une demande pressante? J'aimerais ce matin que cette parole, ce regard sur ce texte de Anne, sur la position de chacun de ces personnages, nous renvoie à ces besoins d'enfantement en nous, de ce qui doit naître de nous. Je renvoyais à la parabole des talents, mais c'est tellement vrai. Il y a tellement de choses qui peuvent advenir dans nos vies, qu'on soit jeune, Samuel, Lucie, Valentin, on va oublier, ou qu'on soit plus âgé, entre Christiane et Samuel, tout le monde est concerné. Qu'est-ce que nous allons enfanter à la demande de Dieu? Qu'est-ce que nous allons prêter de nos vies à Dieu pour qu'il agisse? Seigneur, ta parole est tellement riche pour nous parler, nous inviter à te rencontrer. Là aussi, que la rédemption ne soit pas que le don de Christ sur la croix, mais que cela aille jusqu'au don de nos vies à Christ. Seigneur, il y a de ta part une demande ardente que nos vies t'appartiennent, qu'elles soient à toi. Alors Seigneur, fais-nous rentrer là aussi dans ces démarches où nous pourrons enfanter réellement tout ce que tu as déposé en nous. Que les manques deviennent évidents. Les manques de ce monde, manques de l'Église, mais manques aussi pour nous-mêmes. Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Que les vrais besoins deviennent évidents. Et que nos désirs soient épurés. Mais qu'ils soient là. Parce que c'est le désir qui nous fait avancer, là aussi. Et nous jeter en avant dans tes chemins à toi. Fais souffler ton esprit, Seigneur, pour qu'il en soit ainsi. Amen.